Tous les livres dont il est question dans l'émission qui suit sont disponibles auprès du Service québécois du livre adapté. Bibliothèque et Archives nationales du Québec offrent gratuitement ce service à tous les Québécois ayant une déficience perceptuelle. Pour plus d'informations sur l'admissibilité et l'abonnement, on visite le site sqla.banq.qc.ca ou on téléphone au numéro sans frais 1-866-410-0844.
Il sentit son corps entrer dans l'eau comme une pierre, puis couler vers le fond. La lumière l'accompagna un instant, et il vit autour de lui les poissons effrayés s'échapper. L'air l'aidait encore. Et plus profonds encore, vers cette obscurité qui venait à sa rencontre en même temps qu'elle semblait s'éloigner. Tenir bon. Bientôt, ce serait fini. Comme pour son grand-père, Michele.
À livre découvert.
Lire est le propre de l'homme, a écrit Marianne Chabzal. Décidément, ce n'est pas nous qui dirons le contraire. Soyez les bienvenus sur Canal M à l'émission Un livre découvert avec Clotilde Seil et ses invités.
La table des matières.
Alors aujourd'hui, à l'émission, nous allons d'abord nous entretenir avec Gaston Loubier, qui est abonné au SQLA. Les livres, il en mange et il va nous parler non seulement de livres, mais aussi de Régent du Charme, parce qu'il est retourné lire Régent du Charme sur ma suggestion d'il y a quelques semaines. Nouvelle chronique aujourd'hui, une chronique que j'ai intitulée « Pardon, sur ma table de chevet ». Je ne sais pas si, je suis sûrement comme plein d'autres gens, peut-être même d'ailleurs comme mon autre invité qui est en studio Michel Gélina, mais j'ai sur ma table de chevet une pile de livres et ça s'accumule. D'ailleurs, ça commence à pencher dangereusement. Je me suis dit quel égoïsme quand même que de garder cela pour moi. Donc, je vais vous proposer quelques titres de cette liste de table de chevet. Pardon, j'ai un petit chat qui s'est invité comme ça, tout d'un coup, un petit matou. Il va disparaître, c'est certain. Alors, qu'est-ce que j'ai aussi à l'émission pour vous? Bien sûr, nous revisiterons un classique. Cette semaine, j'ai choisi Le Rouge et le Noir de M. Stendhal en personne. Et puis, dans la seconde partie de l'émission, je retrouve Michel Gélina. Bonjour Michel.
Bonjour Clotilde.
Que vous connaissez bien, puisque Michel a créé cette émission à livre découvert.
Avec Carmen
Lepage. Avec Carmen Lepage.
Mais vous assumez, je suis très fier de vous, vous assumez très très bien la passation.
Merci beaucoup Michel. Et puis, il y aura aussi cette rubrique des nouvelles et des livres. Nous passerons en revue la liste des finalistes au prix littéraire du gouvernement général et nous verrons lesquels ont été enregistrés, soit par l'INCA, soit par le SQLA. Il y aura aussi une page de littérature, une page de lecture. J'ai choisi pour vous Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ramsan Riggs. Et puis, pour terminer l'émission, comme chaque semaine, il y aura quelques titres en rafale.
Chapitre 1. Les livres audio, ils en mangent.
C'est vrai que vous en mangez, Gaston, du livre audio?
Oui, bonjour, chère dame.
Bonjour, Gaston. Comment allez-vous? Gaston Loubier est avec nous.
Mais très bien, très bien. Merci, merci. J'en mange, mais pas un appétit comme M. Landlois ou une de mes amies, là.
Ah?
Je veux pas être prétentieux, mais je les déguste en ce sens où j'en lis régulièrement, sans arrêt, mais en bonne quantité aussi.
OK. Et à petite dose, et vous y allez doucement,
voilà.
Vous écoutez
voilà,
ça.
Voilà.
Vous, est-ce que vous êtes du genre à accélérer la lecture de votre livre? Il paraît qu'il y a beaucoup de non-voyants qui font ça, ou est-ce que vous l'écoutez à vitesse normale?
Ah non, toujours à vitesse normale.
Ah, bon.
Ah oui, parce que, vous savez, moi, là, à mon âge, on dit qu'on retombe à l'enfance. Eh bien, moi, j'y suis. Et
c'est
j'aime
vrai?
Bien me faire raconter des histoires.
Ah, et vous savez que l'une des raisons pour lesquelles aussi on fait du bénévolat, c'est aussi parce que nous, on adore raconter ces histoires-là.
Oui,
et
oui.
S'il n'y avait pas vos oreilles, mon Dieu, que on
Mais
trouvera ça très plate.
Si oui. Si vous permettez, je ferai un petit prologue.
Allez-y.
À savoir que j'aurais aimé écrire le brouillon du brouillon du brouillon du poème de M. Bergeron.
Ah, que j'ai reçu il y a quelques semaines.
Quelle fleur qui vous a envoyé. Nous, à Boissy-du-Carmel, on ne peut pas faire de telles choses.
Ouais.
Et je voudrais en profiter pour aussi vous remercier, vous féliciter pour le bien que vous nous apportez. Vous permettez qu'il n'y ait pas de nuit, qu'il y ait du soleil 24 heures par jour dans nos vies.
Ouf.
Alors, je vous en remercie. Nous sommes gris de tout ce que vous faites. Et même à Livre Découvert, je dois dire que depuis l'origine, avec M. Gélina et Carmen Lepage, on n'a manqué aucune émission dans l'hiver. Alors, c'est très important. Puis moi, je prends des notes de titre qui passent. Mm-hmm. Et là, je serais porté à vous dire, arrêtez. Là, mon carnet est plein.
Bon, écoutez, est-ce que je peux réagir, Gaston? Et puis, j'ai à côté de moi Michel Gélina, à qui je vais donner aussi le micro. D'abord, pour vous dire que oui, je réagis, mais je suis un petit peu sans voix parce que je n'avais pas du tout prévu ce que vous venez de nous dire là. Et ça nous touche, je veux dire, au nom de tous les bénévoles, que ce soit ici ou à l'INCA. On est tous très, très touchés par vos propos, Michel.
Oui, et d'autant plus que, Gaston, d'une part, c'est très touchant. Merci beaucoup. Et je pense que je ne parle pas seulement pour moi, mais pour tous les gens qui font de la lecture ici, et également les gens qui font la notation et les gens qui font les techniciens, tout le monde, etc.
Oui.
Dans le fond, ce que vous venez de nous dire, c'est que ça répond à la question pourquoi on vient ici.
En fait. Ben oui.
C'est pour vous et puis des gens comme vous. Mais je dois vous avouer que ça fait vachement plaisir de l'entendre.
Bon. Oui, parce que...
On n'a pas l'occasion de vous le dire. Quand ça se présente, ça nous fait grand plaisir de vous le rendre.
On fera le message.
On fera le message parce que, vous savez, je pense qu'il y a plein de gens qui n'osent pas. Et j'ai envie de leur dire, osez, parce que vous êtes notre rayon de soleil à nous. Vous êtes l'énergie pour qu'on se lève tous les matins, moi pour lire les journaux, mais aussi pour les livres et tout ça. Et ça nous fait du bien, vraiment. On se sent tout régaillardé. Ben voilà, une émission qui part bien.
Soyez assurés qu'on vous écoute.
D'accord, Gaston.
Oui.
Gaston, lorsque j'ai amené une nouvelle rubrique qui s'intitule le classique du jour, donc alors que je m'amuse à revisiter un peu un classique, je me disais « Oh, est-ce que ça va fonctionner ?» Mais vous m'avez dit « Oh que oui !» et vous êtes retombé avec délectation et bonheur dans l'œuvre de Régent Ducharme.
Oui, ben, c'est-à-dire que oui, parce que vous nous l'aviez suggéré, je l'ai pris en note, hein, et effectivement, je dis « J'ai jamais lu du Régent Ducharme.
Okay.
Pourtant, je suis Québécois, puis je donne toujours préférence à des livres québécois. Je me retrouve dedans. Alors, j'ai effectivement téléchargé À savoir et La vallée des avalés.
Okay.
Et là, j'ai commencé les deux en même temps. J'en ai fait un bout dans un, puis j'ai fait un bout dans l'autre. Ça me plaît, sauf que c'est, pour moi, très littéraire. C'est plaisant. Moi, je suis du monde technique, mais dans ma prochaine vie, je vais me lancer en littérature plutôt que dans la structure d'acier.
Structure pour structure.
Oui.
Mais non, mais c'est bien. Écoutez, il en faut, vous savez, vous l'avez remarqué, puisque vous êtes un fidèle de cette émission, nous touchons absolument à tous les genres.
Oui, oui,
alors, nous allons dans
le
littéraire, nous allons parfois dans des choses beaucoup plus légères, nous allons dans le polar, nous allons dans les choses un petit peu friolantes aussi, de temps en temps. Bref, on y va un petit peu, parce que, vous savez, comme je le dis toujours, c'est vrai en musique, comme c'est vrai pour les livres, s'il y a des gens qui se font du bien le soir en rentrant chez eux et en écoutant du Schubert, c'est formidable. S'il y en a d'autres qui se font du bien en écoutant du Céline Dion, c'est formidable aussi.
C'est merveilleux. C'est dans un bouquet qu'on peut trouver toutes les fleurs qui nous plaisent.
C'est ça, exactement. Et vous, entre autres, il y a un livre dont vous aviez envie de nous parler, qui est signé Francine Ouellette, qui est Le Grand Blanc.
Oui.
Pourquoi ce livre?
Je dirais, au départ, c'est un livre d'hommes, ou encore un livre pour femmes qui aiment les hommes virils.
Oh!
Viril dans le sens de homme, là. Non, c'est Le Grand Blanc, au départ, c'est le nom d'un avion.
Oui.
Tout peint en blanc. Et ça tourne autour d'une équipe de pilotes de brousse dans le Grand Nord.
Dans le Grand Nord, hein, c'est
leur base est à Shefferville. Et il y a une équipe. Et puis, il y a un chef d'équipe. Le chef d'équipe, il y a un Twin Otter. Là,
il a un quoi, je m'excuse?
Un Twin Otter. Non, ça fait intelligent de dire ça, mais je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça a l'air, cet avion-là.
Mais c'est un avion, d'accord, OK.
Oui,
c'est un des grands classiques, Gaston, que vous voyez dans tous les films, vous savez, des films d'aviation, de chasse et pêche, là. Le Twin Otter, c'est la Cadillac des amateurs.
Ah, c'est ce qu'on me dit. Mon fils, qui est dans le domaine, m'a dit que c'est l'avion idéal pour la brousse.
Exact.
Bon, alors, c'est...
Ça doit pas être fait pour les bouquins d'hommes virils, parce que je savais pas ce que c'était. Pardon de vous avoir interrompu, Gaston.
Alors, c'est ça. Lui, il a cet avion-là, et c'est son avion. Et il est chef d'équipe. Puis là, maintenant, il a récupéré un jeune qui sort de prison, il lui montre à piloter, il devient un excellent pilote. Okay. Ce jeune-là, il lui cède, il lui laisse cet avion-là, ce Twin Otter-là, et lui aussi, c'est un excellent pilote, sauf que le plus jeune, il est plus frondeur, lui. Les tempêtes, tout ça, ça l'énerve pas trop. Mm-hmm. Tandis que le chef pilote, que l'on appelle le grand singe, parce que dans cette équipe-là, ils ont tous des surnoms.
Okay. Hein?
Il y a le
okay.
grand singe, il y a tête d'oiseau, il y a mm-hmm. barbiche, parce qu'on peut pas se dire « mon chéri, mon amour », entre hommes, ça se dit pas. Donc, avec un surnom, ça nous permet de communiquer une intimité comme ça.
Mm-hmm.
Or, dans cette équipe-là, c'est ça, tête d'oiseau, c'est son, il l'appelle mon petit frère, là.
Oui.
Il lui laisse son avion. Et là, ce jeune-là, il fait tous ses prouesses avec cet avion-là, et il s'y attache à cet avion-là.
Oui.
Et à un moment donné, la compagnie décide de le vendre, probablement parce qu'il est trop vieux, aussi parce qu'il est tout peint en blanc, puis c'est sûr que s'il crache dans la toundra, ça va être difficile à repérer.
Oui, oui.
Or, on décide de vendre l'avion, puis lui, et il veut pas perdre son avion, même si on lui en promet un autre.
Mmh.
Non, c'est le grand blanc qu'il veut, c'est le grand blanc. Et en plus de ça, il a développé un malaise avec son chef, là. Il s'est passé une aventure que le lecteur découvrira, qui fait qu'il y a eu un conflit entre les deux. Enfin,
oui.
Et comme on lui demande d'aller porter cet avion-là de Shefferville à Wabush, passant par cette île, Québec-Montréal.
Mm-hmm.
Lui, le soir du départ, la veille de son départ, il prend une cuite solide,
oh.
arrosée de poudre blanche.
Oh.
Bon. Or, le lendemain matin, le grand Émile, le chef, lui, il est avec une amie, puis je devrais dire que c'est une amie qui s'est faite en dernier, parce que ce type-là a craché déjà.
Okay.
Et il y a toute une moitié de figure qui est défaite.
Mm-hmm.
On lui sait que personne ne va l'aimer. Il ne sera jamais. Puis il traîne.
Sauf la Sophie, hein? Est-ce que c'est d'elle dont vous
parlez? Voilà, la Sophie, qui, elle, trouve ce gars-là formidable. Lui, il ne croit pas, tu sais, parce qu'il n'est pas assez beau. D'autant plus que, et c'est important dans le volume, c'est que lui, la barbe pousse, mais seulement que d'un côté.
Ah ben oui.
Donc, pour lui, c'est bien important qu'il est toujours propre, pour pas que la barbe paraisse en ça. Ça devient encore moins joli comme
bien
apparence. Mais tout ça pour dire qu'il passe la nuit avec elle, et le lendemain matin, en se levant, il se rend compte que le B-Otter, là, le Twin Otter, plutôt, il est encore sur la piste d'envol, qui n'a pas décollé, puis il est 10 heures, puis il devait partir à 7 heures.
Oui,
il va voir dans la roulotte du pilote,
Et là,
il est tendu par terre.
Mais oui,
dans
sur un sacré hangover, là, si vous me permettez l'expression.
Fait que lui, c'est un homme d'honneur, il dit, moi, je vais aller porter cet avion-là à Montréal.
Et là, on veut pas en savoir plus, mon ami Gaston, parce qu'on veut justement laisser à nos amis auditeurs, parce qu'on se dit, mais va-t-il parvenir à amener cet avion-là, parce que
finalement,
à son but...
Et tout ça, si on est rendu à la fin, je vais sauter l'histoire d'abord.
Et puis moi, je vais vous sauter, Gaston, si je peux me permettre, parce que mais pas dans le sens biblique, pas dans le sens biblique du terme, mais dans le sens que vous rendez-vous compte que vous aviez peur, Gaston, vous m'aviez dit, oh mon Dieu, je serais incapable de parler d'un livre plus de deux minutes. Vous savez combien vous m'avez fait là? Quasiment six.
Bon.
Mais écoutez, Gaston, il y a une chose qui est formidable, c'est que vous nous avez donné envie de lire ce livre-là, dont je rappelle le titre, Le Grand Blanc de Francine Ouellet. Et je ne veux surtout pas que vous alliez plus loin, parce que je veux qu'ils le découvrent par eux-mêmes. Moi-même, je pense que je vais rajouter ça sur la pile de livres qui va ressembler de plus en plus à la Tour de Pise.
Il y a juste un défaut, c'est que ce livre-là, même s'il a 854 pages, 26 heures d'écoute, il manque une fin. On dirait que la fin n'est pas terminée.
C'est peut-être parce qu'il va y en avoir un autre. Ça appelle un tome 2.
On voudrait que ça dure 3-4 pages de plus.
Bon, vous savez quoi? je vais envoyer un petit mot à Mme Ouellet et je vais lui dire que vraiment, il manque quelque chose à la fin de son livre. Est-ce que ça fait...
3-4 pages.
D'accord. Gaston Loubier, abonné du SQLA, merci tellement d'avoir accepté mon invitation et j'ai bien hâte de vous réentendre encore sur les ondes de Canal M.
Bon, merci. Ça me fait plaisir.
Mais oui.
Je suis mal à l'aise.
Mais voyons donc, ne soyez pas, c'est moi qui vous ai encore une fois coupé le sifflet. Ça nous arrive tellement souvent. Mais dites-vous que c'est pour la bonne cause.
Oui, c'est pour
permettre aux gens de découvrir par eux-mêmes ce que contient ce livre de Madame Francine Ouellette. Ça vous va?
Très bien, merci.
Passez une belle fin de journée.
Au revoir à vous tous. Merci encore.
Au revoir, Gaston.
Au revoir.
Tellement sympathique. Je vous propose maintenant une chronique toute nouvelle. Voilà, j'ai décidé d'amener ça ce matin, comme ça. Je me suis dit, pourquoi pas? Non, regardez, je vais vous dire la vérité, c'est que j'ai un invité qui m'a floché, comme on dit, à la dernière minute. Et comme je n'ai pas l'habitude de vous mentir, tu dis, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et là, j'ai vu la pile dont je parlais avec M. Loubier, la pile de livres qui ressemble de plus en plus à la Tour de Pise sur ma table de chevet. Je me suis dit, tiens, et pourquoi ne pas prendre quelques-uns de ces livres qui sont là et venir vous en parler? Honnêtement, il y en a un que j'ouvre régulièrement, un autre que je n'ai pas encore ouvert. Alors, permettez maintenant, et mon petit chat qui est revenu, voyons donc, un petit verre d'eau, Clotilde, merci beaucoup Kamal qui m'en a apporté. Alors, le premier livre dont j'ai envie de vous parler, c'est un des nombreux livres de Christian Bobin. Il a bien sûr été enregistré par le SQLA, sinon je ne vous en parlerai pas. Il s'appelle « Un assassin blanc comme neige ». Vous savez, c'est du Bobin. Que dire de Bobin? Vous avez lu beaucoup de
non, je connais pas, je découvre.
Ah, mon Dieu. Christian Bobin, c'est un type qui nous fait traverser le monde tout en douceur. Si j'osais, je vous dirais, j'ai trouvé une formule, c'est de l'émotion à fleur de mots. C'est quelqu'un qui nous fait vivre le temps présent. Alors, tout d'un coup, ça va être un très court chapitre, parce que là, ce ne sont que des très courts chapitres sur une musique, sur un musicien, sur un arbre qui bruisse, sur une fleur, sur un enfant, sur une femme, belle ou sur une autre, laide, peu importe. Et donc, c'est vraiment le temps qui passe. Et ce type-là a écrit je ne sais plus combien de livres et son écriture. Son écriture est absolument sublime. Je vous propose, par exemple, cette page-ci au sujet de Jean-Sébastien Bach. Alors, il dit « Jean-Sébastien Bach a dans le dos une clé en or que je tourne plusieurs fois par jour ». Les cinq chanteurs de la chorale d'Oxford bâtissent une chapelle aérienne à l'intérieur de l'église d'Anzy-le-Duc. Leurs voix descendent sur la terre charolaise, s'accordent au millième de seconde près, si fines qu'elles ouvrent au rasoir l'âme des auditeurs. Un éclair encanaille les yeux des choristes pendant les applaudissements, la joie toute païenne d'avoir traversé, sans y laisser sa peau, un champ de mine. Ils ont tutoyé Dieu dans son retrait, un silence en or leur a répondu. À présent, disposés en éventail sur le parvis pour ne laisser à personne la moindre chance de fuir, ils tendent aux spectateurs des boîtes de carton perforées où glisser quelques sous, une rafle angélique. On ne fait pas plus paysan que Bach, toujours le même sillon tracé dans le même champ, les mêmes bottes de lumière portées aux anges de l'étable et une cantate dorée sur la table chaque dimanche. Des chiens de chasse, déprimés, traversent le pré avec un petit bruit de grelot. La mort au loin les siffle. Un grand musicien est quelqu'un qui donne, après plusieurs années de travail, ce que donne le rossignol au premier jet de son chant. Il y aura toujours une pluie pour jouer du clavecin ou un merle pour composer une fugue. Il y a de ces livres qui nous échappent. Vous savez, quand ils sortent, ils ne rentrent pas chez nous. On se demande pourquoi, on passe à côté. Et puis soudain, on tombe dessus, par hasard, sur le comptoir d'une librairie. Puis on se dit, ah oui, c'est vrai, ça a été pris Goncourt, ça, il y a quelques années. Et en fait, c'était en 2001. C'est le cas de « Rouge Brésil » de Jean-Christophe Ruffin. qui est une aventure, qui est la grande aventure des Français au Brésil, et qui est un des épisodes les plus extraordinaires et les plus méconnus de la Renaissance, nous dit-on au début de la quatrième de couverture. Juste un court extrait, ici, où l'on nous dit « La vie indienne était la moins secrète qui fut. Chacun vivait nu dans une maison commune, et les activités se déroulaient dans l'espace découvert du camp. » Pourtant, il fallait une longue observation pour saisir ce qui pouvait animer cette communauté d'êtres humains tant elle paraissait immobile. Tout, de l'expression des sentiments aux gestes quotidiens, de l'ordinaire de la vie jusqu'aux exceptionnels moments de fête, se présentait sous des dehors alanguis, feutrés et mystérieux. Colombe s'emplit naturellement de tout cela. Elle mit du temps d'abord à s'effacer elle-même. Sa présence d'Européenne, quoiqu'elle l'a voulu calme et discrète, rompait par des brusqueries l'harmonie indienne. Le plus aisé, en vérité, était le langage des mots. Les femmes l'initièrent à des rudiments de conversation qui lui furent assez vite familiers, mais combien plus difficile était la grammaire des corps. Tout son instinct de sentir les émotions humaines était dérouté dans ce nouvel univers. L'expression prenait chez les Indiens une ampleur déconcertante. Des frémissements de muscles, des postures de membres et, jusqu'au subtil changement d'inflation du sexe des hommes, tout était sens, à la fois évident et dérobé, lisible aussi clairement qu'un livre et aussi mystérieux quand la langue en est inconnue. Alors, je vous rappelle les titres de ces deux livres que j'ai extraits de ma tour de Pise. Sur ma table de chevet, il y avait « Un assassin blanc comme neige » de Christian Bobin, comme ça se prononce, B-O-B-I-N, et « Rouge Brésil » de Jean-Christophe Ruffin. J'avais choisi, bien évidemment, musicalement du Bach pour le Bobin. Et là, ce qu'on entendait, ça m'est venu spontanément, c'est la musique du film « Mission » qui nous amenait justement en Amérique du Sud. Ce n'était pas exactement au Brésil, mais dans une tribu indienne. Donc « Rouge Brésil » de Jean-Christophe Ruffin, prix Goncourt 2001. Allez, on passe au prochain chapitre.
Chapitre 3. Le classique de la semaine.
Le rouge et le noir. Oui, j'ai eu envie de ça parce que j'ai revu le film récemment avec Gérard Philippe. Alors tout d'un coup, j'avais les images en tête et j'ai fait quelques recherches. J'avais envie de parler d'autre chose que de l'histoire. Eh bien, ce sont des recherches qui m'ont permis de trouver que le rouge et le noir, en fait, ça devait s'appeler Julien. Du nom du personnage principal, évidemment, Julien Sorel. Mais le choix du titre n'aurait rien à voir aussi, nous dit-on, avec le jeu, parce qu'on a pensé ça, hein, les noirs et les rouges, rien à voir avec ça. Selon Stendhal lui-même, du fait que Julien Sorel aurait pu revêtir le rouge de l'uniforme s'il était devenu militaire, ou le noir de la soutane s'il était devenu ecclésiastique, c'est de là qu'est venu ce titre, le rouge et le noir. Et puis on a prétendu aussi que Stendhal aurait déclaré un jour, Stendhal, c'est moi, mais il a très très vite démenti ce fait. En fait, ce livre-là est né d'une histoire vraie, ce qui est celle du procès d'Antoine Berthet. Et ce type, c'est un procès qui a fait grand bruit dans la gazette des tribunaux où à chaque jour on relevait tout ce qui s'était passé au procès. Nous sommes dans les années 1827-1828 et cet Antoine Berthet-là était un jeune homme élevé par un curé, par le curé du village où il est né, un jeune homme très 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 fin, très svelte, très beau. comme par hasard. Et ce type-là est devenu... il est rentré au séminaire et il en est sorti pour devenir, entre autres, précepteur. Il est rentré une première fois dans un château où il est réellement devenu l'objet d'une passion dévorante. Et lui-même, il s'est mis à aimer cette Madame M, qui était la patronne de ce château, qui était la maîtresse de ce château et qui est aussi devenue sa maîtresse à lui, jusqu'à ce que la servante découvre la chose et qu'elle en avise le mari cocu. Évidemment, il a été chassé, mais avec une blessure terrible. Il a réussi à rentrer dans d'autres maisons comme précepteur, mais à chaque fois, il retombait dans le même problème. À chaque fois, il devenait l'objet de cet amour inconditionnel, soit de la part de la maîtresse de maison, ou généralement de la fille de la maîtresse de maison. Donc ça, c'est réellement l'histoire telle qu'on la retrouve dans Le Rouge et le Noir. Et ce type-là, finalement, à un moment donné, il a été chassé de toutes les grandes maisons parce qu'évidemment, il y avait une réputation qui le précédait. Et donc, il a été chassé de toutes les grandes maisons. Il a été chassé de tous les séminaires. Il n'a jamais pu rentrer au séminaire, ce monsieur Berthella. Et il a fini par, effectivement, dans une église, tenter d'assassiner la première maîtresse de la première maison où il a été précepteur, qui était cette fameuse Madame M. On ne connaît pas son nom. Il l'a raté. Et ensuite, il a retourné l'arme contre lui et il s'est raté aussi. Et il y a donc eu procès. Et c'est de ce fait-là qu'a été tiré Le Rouge et le Noir, tel qu'on le connaît. Je vous en propose un court extrait. Je pense qu'il me reste un petit peu de temps pour ça. Nous sommes au procès, justement. Messieurs les jurés, l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort me fait prendre la parole. Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. Je ne vous demande aucune grâce, continua Julien en affermissant sa voix. Je ne me fais point d'illusion, la mort m'attend, elle sera juste. J'ai pu attenter au jour de la femme la plus digne de tous les respects, de tous les hommages. Madame de Rênal avait été pour moi comme une mère. Mon crime est atroce et il fut prémédité. J'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés, mais quand je serai moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, nés dans une classe inférieure et en quelque sorte opprimés par la volonté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Voilà mon crime, messieurs, et il sera puni avec d'autant plus de sévérité que dans les faits, je ne suis point jugé par mes pairs. Je ne vois point sur les bancs des jurés quelques paysans enrichis, mais uniquement des bourgeois indignés. Extrait 2, Le Rouge et le Noir de Stendhal.
À Livre Découvert avec Clotilde Seille et ses invités.
Mourir en rougissant, suivant la guerre qu'il fait. Du fait des Allemands à cause des Anglais, mourir pèseur intègre entre les seins d'une grosse, contre les os d'une maigre dans un cul de basse fosse, mourir de frissonner, mourir de se dissoudre, de se racrapoter. Mourir de se découdre ou terminer sa course la nuit de ses 100 ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ours, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire. Mais vieillir, oh, pour vieillir. Mourir, mourir de rire, autre, c'est possiblement vrai. D'ailleurs, la preuve en est qu'ils n'osent plus trop rire, mourir de faire le pitre pour dérider le désert, mourir face au cancer par arrêt de l'arbitre, mourir sous le manteau tellement anonyme, tellement incognito, que meurt un synonyme ou terminer sa course la nuit de ses 100 ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ours, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire. Mais vieillir, oh, vieillir. Mourir couvert d'honneur et ruisselant d'argent, asphyxié sous les fleurs, mourir en monument, mourir au bout d'une blonde, là où rien ne se passe, où le temps nous dépasse, où le lit tombe en tombe. Mourir insignifiant au fond d'une tisane, entre un médicament et un fruit qui se fane. Ou terminer sa course la nuit de ses 1000 ans, vieillard tonitruant, soulevé par quelques femmes, cloué à la grande ours, cracher sa dernière dent en chantant Amsterdam. Mourir, cela n'est rien, mourir la belle affaire, mais vieillir, oh, oh, vieillir.
Chapitre 4. Le bénévole du jour.
Et la table est mise, chers bénévoles. Bonjour Michel Gélina.
Bonjour Clotilde.
Ah, je suis ravie de vous revoir. Vous
avez pris la même place. Ça fait plaisir d'être ici. Oui, j'ai retrouvé la même place, le même studio. Mais ce que j'ai retrouvé surtout, c'est le plaisir d'entendre parler de livres.
Oui.
Il y avait Gaston au début et puis de vous entendre. En plus, vous avez mis bac sur là-dessus. Ma journée est faite, je peux rentrer chez nous.
Non, pas tout de suite. Okay. Donnez-moi quelques minutes. Le
avec
temps que vous nous présentiez ce livre que vous avez lu.
Oui.
Ici même. Je vous laisse le présenter. Titre,
alors, écoutez,
auteur.
C'est un livre de François Cheng qui s'appelle « 5 méditations sur la mort », autrement dit, sur la vie. Bon, là, on va établir quelque chose tout de suite, là. On s'entend que c'est pas le party, on s'entend que c'est pas un polar, on s'entend que... Uh-huh. Mais en même temps, et je tiens à le préciser, c'est pas non plus quelque chose de trop ou de très lourd. Dans uh-huh. un premier temps, le premier aveu que je dois vous faire, Clotilde, c'est que moi, je ne connaissais pas François Cheng. Je ne savais pas qui était ce monsieur. C'est ce que j'appelle les dommages collatéraux de travailler ici à Vues et Voix. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix des livres, donc je dois lire ce qu'on me donne. Et ça a été une découverte, d'abord au niveau de la qualité de l'écriture, mais je vous avoue que le thème me faisait un petit peu peur au départ. Hein? Mais ce qui est très important de savoir, c'est que le titre du livre, on retient le mot mort surtout, hein? Mm-hmm. Mais le véritable titre, et d'ailleurs c'est même inscrit sur la page couverture, hein? Mm-hmm. Le titre 5 méditations sur la mort, ça c'est en noir sur fond blanc, et le autrement dit sur la vie, ça c'est en rouge sur fond blanc. Donc c'est vraiment la différence entre les deux, et à mon avis, j'aurai ma petite conclusion personnelle à la fin, mais il reste que le véritable fond de ce livre, c'est la vie. Mm-hmm. Il le renverse complètement. Mais je voulais d'abord vous parler un petit mot sur l'auteur,
sur
parce que il sort d'où ce monsieur-là. Et là, j'ai l'air un petit peu idiot, j'ai l'air surtout d'un inculte total parce que il fait partie de l'Académie française.
Oui.
Ce que je ne savais pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que bon, c'est d'abord aussi un essayiste, mm-hmm. c'est un poète, c'est un calligraphe, c'est un romancier, universitaire bien sûr, traducteur et académicien. Et c'est un monsieur qui est né en 1929 et puis bon, ben il est né en Chine. Ses langues d'écriture sont le français et le chinois. Et moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que dans les caractères chinois, son nom signifie « qui embrasse l'unité ».
Oh.
Déjà en partant, ça, c'est déjà beaucoup. Alors, ce monsieur est arrivé...
Est-ce que vous pensez, je m'excuse, Michel, oui. que c'est le caractère chinois qu'on voit sur la pochette?
Le caractère chinois qu'on voit sur la pochette veut dire « la vie engendre la vie et il n'y aura pas de fin ».
Ah, ok, ok. Alors,
C'est une calligraphie qu'il fait lui-même d'ailleurs.
Hein. Ah, en effet.
Mais dans tous les noms chinois, pour avoir travaillé un petit peu en Chine, dans les caractères qu'on vous donne, c'est un peu comme on avait à l'époque dans les noms amérindiens. Il y avait un sens, fils de la lune, fille du soleil, bon, etc. Ouais. Mais ce que je trouvais ça très beau, qui embrasse l'unité, quand on devient en plus auteur et écrivain et qu'on écrit des trucs comme ça, c'est quand même assez extraordinaire. Son histoire est un petit peu particulière parce que, bon, ben, il est issu d'une famille de lettrés hein, chinoises. Mm-hmm. Puis après des études à l'université de Nankin, bon, il est arrivé à Paris parce que sa famille est installée à Paris après la création de l'UNESCO. Mais en 1949, c'est l'arrivée Mao en Chine et sa famille, donc, décide d'aller s'installer aux États-Unis. Alors que lui choisit de rester en France, de rester à Paris parce qu'il est fasciné par la littérature française et il veut poursuivre ses études et développer cette culture française. Il se consacre donc à la langue. Hein. Et il va commencer à écrire un petit peu, mais il va d'abord écrire en chinois et il va publier du côté de Taïwan et Hong Kong. Ce n'est qu'en 1977 qu'il va se sentir suffisamment à l'aise pour écrire en français et il va commencer à écrire certains ouvrages sur la pensée, la peinture, l'esthétique chinoise et des ouvrages poétiques aussi. Mais déjà, écoutez, en 1998, il obtient le prix Femina. Dans le livre qui s'appelle Le Dit de Tani et le Grand Prix de la francophonie de l'Académie française en 2001. Et comme je le disais tout à l'heure, ben, il est membre de l'Académie française. Donc, on peut soupçonner qu'il est assez à l'aise en français, merci. Hein? Ça, ça va assez bien avec ça.
Il a été, en 2002, hein, il a été élu à l'Académie française.
Oui, tout à fait. Maintenant, le livre comme tel, son point de vue, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est que, d'abord, ce n'est pas un livre où un auteur s'assoit et écrit des pensées. Ce qu'il a fait, lui, il avait déjà publié quelques années auparavant un livre qui s'appelait « 5 méditations sur la beauté ».
Oui.
Et il reprend l'exercice, si vous voulez. Et ce qu'il fait, c'est qu'il rencontre des gens, un peu dans l'équivalent de cours de yoga, et il parle avec eux. C'est un échange.
Okay.
De telle sorte que lorsque vous lisez le livre, il commence toujours en parlant « chers amis ». Ce qui a un drôle d'effet, c'est que vous, comme lecteur, ça vous inclut dans sa discussion.
Okay.
C'est surprenant au niveau de l'écriture.
Mais donc, c'est un échange sur la mort.
C'est-à-dire que c'est un échange. On lui a demandé ce qu'il pensait de ce thème-là. Il fait 5 réunions et il a eu l'occasion d'y penser. Et il amène, donc, il livre un peu ses réflexions. Ce qui est très important, c'est qu'on va s'entendre que ce n'est pas chiant.
OK.
Première chose. Deuxièmement, ce n'est pas quelqu'un qui juge. Et surtout, ce n'est pas quelqu'un qui se veut le professeur docte qui vient vous dire voici ce que doit être les choses. Donc, il y a un ton dans ce livre-là qui, moi, m'a séduit. J'ai quelques réserves, mais il y a un ton qui m'a séduit énormément dans la mesure où j'ai comme l'impression de lire, sinon d'entendre, quelqu'un qui a réfléchi, mais d'une façon posée, sans prétention, et qui communique sa propre expérience. Ce qui est particulier dans le cas de M. Cheng, c'est qu'il ne peut pas s'empêcher, c'est dans sa nature, il y a cette dualité entre l'Orient et l'Occident, et ça devient d'une richesse absolument extraordinaire, parce qu'il nous amène dans un monde, et il fait des comparables, parfois, d'une culture à l'autre, mais fondamentalement, on arrive et on repart de la même façon, qu'on soit d'Afrique, qu'on soit d'Asie ou qu'on soit d'Europe ou d'Amérique. Ouais. Alors ça, c'est séduisant, mais j'ai mes idées là-dessus, mais il y a une personne qui en a eu aussi, c'est Jean d'Ormesson, qui a beaucoup commenté ce livre-là. Et ce qu'il dit, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il dit que l'humble poète, donc il parle de Cheng, qui se change en interlocuteur de Dieu et il se demande avec audace si nous n'avons pas été créés à cette fin. C'est-à-dire, éventuellement, donc, de vivre à travers cette étape qui est la vie et la mort. Et Cheng lui-même décrit un peu sa situation en disant « Je suis venu de ce que jadis on appelait le tiers-monde. Hein. » Il faut se souvenir de la Chine du début du siècle. « Et nous formions alors la tribu des damnés, des éternels crève-corps, crève-cœur, porteurs de souffrance et de deuil, si mal gâtés que la moindre miette de vie était reçue par nous comme un don inespéré. » Et ça, c'est la base de sa pensée. Oui. C'est que c'est la vie et la mort fait partie de ce processus-là. Ouais. Donc, ce n'est rien de... On est loin du jansénisme, on est loin de la grande tradition classique de la mort. C'est lourd et effrayant. Oui. Au contraire, lui dit « Profitons-en ».
Oui.
Parce que ça devient une étape de ta vie et il faut le voir dans cet axe-là. Alors, il faut dire que le monsieur, bon, il était persuadé qu'il était pour mourir très jeune, hein, il était très malade. Et il y a un poème sur lequel il s'est basé, c'est un poème de Rilke d'ailleurs, qui dit « Seigneur, donne à chacun sa propre mort, qu'il soit vraiment issu de cette vie où il trouve à l'amour un sens et sa détresse. » Donc, c'est quelqu'un qui est absolument fantastique. Ce qu'il propose, en fait, c'est de sortir de ce pétrin qui est l'attente de la mort, c'est d'inverser notre regard. Au lieu de dévisager la mort à partir de ce côté-ci de la vie, nous pourrions envisager la vie à partir de notre mort, conçue non comme une fin absurde, mais comme le fruit de notre être. Alors, ça peut paraître un petit peu lourd comme ça, mais ça ne l'est pas, c'est moi qui lui donne un peu le ton. C'est absolument... C'est captivant, c'est bien fait, ce n'est pas prétentieux, c'est quelqu'un qui n'a pas de leçon à donner et vous le recevez comme tel. Moi, la seule réserve que j'ai eue, Clotilde, c'est que, d'abord, c'est 5 rencontres qu'il a. Les 4 premières, c'est le fruit de sa méditation. C'est vraiment une méditation. La 5e, ce ne sont que des poèmes que lui a écrits. Ça, ça se peut qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ça reste ça. Ensuite, moi, j'ai découvert au 4e chapitre que, bon, lui, de sa perspective à lui, il est croyant et il appuie sur sa foi dans le christianisme. Moi, c'est la petite réserve que j'avais. Sinon, le reste, c'est une invitation. Amusez-vous. C'est magnifique.
Et on va quand même prendre une minute ou deux, tant pis, c'est pas grave, on va récupérer ça un petit peu plus tard à l'émission, parce que la semaine dernière, j'avais fait un petit montage d'un extrait de cette lecture de monsieur Cheng, et je voudrais qu'on en réentende un petit bout peut-être. Il s'agit d'un poème, parce que...
Oui, c'est la 5e méditation, ce sont des extraits de ses poèmes.
5e poème. La mort n'est point notre issue, car plus grand que nous est notre désir, lequel rejoint celui du commencement, désir de vie. La mort n'est point notre issue, mais elle rend unique tout d'ici. Ces rosées qui ouvrent les fleurs du jour, ce coup de soleil qui sublime le paysage, cette fulgurance d'un regard croisé et la flamboyance d'un automne tardif. Ce parfum qui assaille et qui passe insaisi, ces murmures qui ressuscitent les mots natifs, ces heures irradiées de viva, d'alléluia, ces heures envahies de silence, d'absence, cette soif qui jamais ne sera étanchée, et la faim qui n'a pour terme que l'infini.
Sur le Requiem de Forêt, du moins, un petit extrait.
Comment ça se trouvait bon? Avec une musique comme ça, je vous avoue que je comprends un petit peu. Mais je tiens à préciser, Claudine, c'est très important, que ce que vous avez entendu, c'est donc dans la 5e méditation, c'est un extrait de poème. Mais que les 4 méditations, c'est vraiment de la prose.
C'est ça, de la prose, exactement.
C'est pas une lecture de poème.
5 méditations sur la mort, autrement dit sur la vie, de François Cheng. Ça s'écrit C-H-E-N-G. Merci beaucoup, Michel Janina.
C'est un plaisir, Claudine.
On va se revoir. Hein?
Avec grand plaisir.
D'accord.
Des nouvelles et des livres. Oui, des nouvelles et des livres. Nous avons reçu il y a quelque temps la liste des nominés au prix littéraire du gouverneur général et je suis vite allée voir lesquels parmi tous ceux-ci avaient été enregistrés soit par nos soins, soit par l'INCA, et j'en ai trouvé quelques-uns. Par exemple, dans la catégorie roman, il y a Le feu de mon père de Michaël Delisle, qui est un récit très poignant. C'est où le poète, le narrateur, se remémore son père, le bandit devenu chrétien charismatique, l'homme violent qui ne parlait plus que de Jésus, l'homme détesté qu'on ne peut faire autrement qu'aimer en dépit de tout. Donc il se ramasse sur la liste des livres en nomination. Pourquoi Bologne, d'Alain Farah, c'est aussi disponible chez nous. C'est à la fois un roman de science-fiction rétro et c'est une autofiction. Pourquoi Bologne, c'est un livre sur la résilience et la littérature comme remède. Donc j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser. C'est sur la nécessité de raconter des histoires pour s'en sortir. On ne peut pas être plus dans le sujet que dans ce sujet. C'est Le cœur qui meurt en dernier de Robert Lalande. Robert Lalande que j'avais reçu à cette émission-là, qui évoque de façon bouleversante celle qui fut sa mère, femme piégée par le destin et qui d'outre-tombe continue d'entretenir avec son fils un rapport de tendresse et de bataille. Et il y a aussi L'Orangerie de Larry Tremblay, dont nous avons abondamment parlé à cette émission-là. Dans la catégorie essai, 3 titres. La Corriveau, de l'histoire à la légende, de Gabriel Ferland et Dave Corriveau. Tenir tête, de Gabriel Nadeau-Dubois. Nous allons recevoir à un moment donné ou à un autre, très prochainement, Gabriel Nadeau-Dubois, puisqu'il a enregistré lui-même cet essai. Et puis, Ce que dit l'écorce, de Catherine Mavrikakis. Alors, on saura le 18 novembre prochain qui sont les gagnants des prix littéraires du gouverneur général 2014. Chapitre 5. De bouche à oreille. une page de littérature.
Alors ça, c'est un livre que je n'ai pas lu personnellement, ni à voix haute chez Vuzet-Voix, voyons, je vais le dire, ni à voix basse chez moi. Mais il fait partie de ma liste aussi sur ma, et de ma pile sur ma table de chevet. Ça s'appelle « Miss Pérégrine et les enfants particuliers ». Et c'est un livre, écoutez, tout à fait saisissant. Ça va être difficile d'en parler en quelques secondes. Ce qu'on nous dit, un tout petit résumé en quatrième de couverture va, je l'espère, vous appâter un peu. Une histoire merveilleusement étrange, émouvante et palpitante, un roman fantastique et qui fait réfléchir sur le nazisme, la persécution des juifs, l'enfermement et l'immoralité. Et là, vous vous dites encore un livre sur la guerre ? Pas du tout. Il s'agit là, je vais vous lire ici à l'intérieur, vous allez comprendre. Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une minuscule île du pays de Galles où ses parents l'avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Le jeune abbé Portman y a été recueilli par Miss Pérégrine Faucon, la directrice d'un orphelinat pour enfants particulier. Selon ses dires, Abbé y côtoyait une ribambelle d'enfants doués de capacités surnaturelles censées les protéger des monstres. Et alors ce livre est formidable parce que il y a toutes sortes de photos, alors que c'est un roman. Donc, et on a pris des photos comme si cet orphelinat-là avait vraiment existé et de tous ces enfants spéciaux, comme par exemple, en page 1, on voit une petite fille qui est habillée comme dans les années 30 ou 40, qui est coiffée comme dans les années 30. Mais là, on s'aperçoit qu'elle est en lévitation. Ou alors, on voit, par exemple, à un moment donné, une petite fille qui a la tête d'une petite fille, mais le corps d'un chien. Ou alors, on voit une autre jeune fille qui s'habille comme une veuve. Bref, d'étranges personnages sur cette île du pays de Galles. Oui, oui, non, non. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis tout de suite dit, je suis dans l'univers de Tim Burton. Vous savez, le cinéaste. Eh bien, j'avais vu juste, parce qu'en 2015... ce livre-là, Miss Pérégrine et les enfants particuliers, va sortir au cinéma, mis en scène, réalisé par M. Burton. J'ai le temps un petit peu, j'ai fait un petit montage pour vous faire écouter un extrait de ce livre-là sur la musique de nul autre que Elephant Man, parce que ça allait tellement bien ensemble.
Les chaises étaient renversées. Les portes du réfrigérateur et du congélateur étaient ouvertes et de petites flaques poisseuses s'étalaient sur le lino. Ma gorge s'est nouée. Grandpa avait-il fini par perdre complètement les pédales? J'ai crié son nom, en vain. Je suis allée de pièce en pièce. J'ai allumé les lumières et exploré tous les endroits où un vieillard paranoïaque pourrait avoir l'idée de se cacher. Derrière les meubles, dans le grenier où l'on tenait à peine debout, sous l'établi dans le garage. J'ai même examiné l'armoire où il rangeait ses armes. Elle était verrouillée et la serrure entourée d'éraflures, signe qu'il avait essayé de la forcer. Sous la véranda, une fougère sèche s'agitait dans la brise. Plein d'appréhension, je me suis agenouillée sur le gazon synthétique pour jeter un coup d'œil sous les bancs de rotin. Et de là, j'ai aperçu une lueur dans le jardin. J'ai foncé dehors et trouvé une lampe torche abandonnée dans l'herbe. Son faisceau était orienté vers le petit bois, au fond du terrain. Une véritable forêt vierge qui s'étend sur plus d'un kilomètre entre Circle Village et le quartier voisin, Century Woods. La rumeur dit que ce bois grouille de serpents, de ratons laveurs et de sangliers. J'ai imaginé mon grand-père perdu dans cette jungle, en peignoir, et un sombre pressentiment m'a envahi. On lit régulièrement ce genre de faits divers dans les journaux. Un vieillard tombé dans un bassin de rétention, dévoré par les alligators. Le pire n'était pas difficile à envisager.
Voilà, la table est mise. J'espère que ça vous aura, donné l'envie de lire ce livre, Miss Peregrine et les enfants particuliers, de monsieur, est-ce que j'ai redit son nom? Je vais vous le retrouver, mille excuses. Il est où? Il est ici. Voilà, de monsieur Ransom, R-A-N-S-O-M, Riggs, R-I-2-G-S. Voilà, donc ne ratez pas ça. Ah ben c'est l'heure de... Oui, oui.
Quelques nouveautés en rafale.
Alors oui, comme j'en ai l'habitude pour finir cette émission, d'autres titres pour encore plus mélanger notre ami Gaston Loubier qui trouve que j'en donne donc bien souvent. Vous savez que tous les titres, absolument tous les titres dont il a été question à cette émission sont disponibles en version audio via le SQLA. Soit ils ont été enregistrés par l'INCA, soit par le SQLA, ils sont tous là. Bon, alors voici celui-ci. Là, on est vraiment au chapitre des nouveautés. Ça vient juste de sortir au mois de septembre ou au mois d'août, mais c'est vraiment récent, récent. Désespérer s'abstenir, d'Annie Quintin. Annie Quintin, c'est une femme qui imagine des histoires depuis son enfance. C'est quelqu'un à qui on prédisait déjà une carrière d'auteur quand elle était au secondaire. Mais bon, elle refusait les honneurs de ses professeurs qui voulaient lui donner des méritasses pour ses productions écrites dommage. Elle a pris plus tard qu'elle aurait eu droit à un gros Larousse. Mais enfin bref, elle préférait refiler en douce à ses copines des textes cochons et mélodramatiques écrits sur des feuilles mobiles de couleur pastel. Et alors là, on lui doit ce livre à cette femme qui est devenue elle-même enseignante et qui a participé à l'École nationale de l'humour aussi. Elle a reçu ce cours-là. Donc elle a abandonné tout ça. Aujourd'hui, elle écrit et c'est elle qui a signé « Désespérer, s'abstenir ». Vous savez, les sites de rencontre, tout le monde est là-dessus. Eh bien, les bars, c'est fini. On ne peut plus rencontrer ailleurs que sur les sites de rencontres. Ma grand-mère est là-dessus, dit un des protagonistes du livre. Le hamster du voisin est là-dessus. Alors, ça a été Internet par défaut. À défaut de trouver les occasions, à défaut de trouver le guts d'aller voir ailleurs, si j'y étais, dans la soupe d'un gars réel, peut-être. C'était aussi comme jouer à la loto de l'amour sans être convaincu de pouvoir gagner. Une chance sur un million de remporter l'incroyable prix, celui de trouver ce que j'appelais l'âne, sœur. Alors Annie Quintin qui signe ici son premier roman, nous dit-on dans une critique parue dans le journal Métro Montréal, on nous dit qu'elle dépeint de façon très inspirée la réalité de l'amour à l'ère d'Internet et le tout avec une bonne dose d'humour incisif dont on se délecte du début à la fin. Un petit extrait. S'il s'avérait improbable de faire connaissance avec un homme dans la vraie vie, Internet m'avait semblé très facile d'utilisation. C'était un moyen de rencontre rapide, accessible à toute heure du jour et de la nuit. En quelques clics, je magasinais du mal. Aucune gêne, pas de niaisage, bing bang, je te veux. C'est un extrait de ce livre. Je vous rappelle le titre, Désespérer s'abstenir de Annie Quintin, Quintin. Ce que dit l'écorce, un essai de Nicolas Lévesque et Catherine Mavrikakis, qui est en lice d'ailleurs pour le prix littéraire du gouverneur général de cette année. Critique de Christian Desmeules dans Le Devoir qui écrit « D'un côté, il y aura les écorchés, de l'autre, les téflons. Hommes et femmes à la couenne dure, lisse et sans tache, sur qui tout semble glisser. Les rigueurs de la vie, les abus, le temps qui fuit, ils semblent être imperméables à leur propre malheur autant qu'à ceux des autres. Il s'agit, dans ce que dit l'écorce, il s'agit d'un essai tout bonnement sur la peau PEAU. Le chant de la terre inou par Jean Bédard. On fait monter une jeune inou sur une plateforme de bois construite dans les arbres. Toute seule, juchée parmi les branches, elle attend la visite de l'animal totémique qui guidera son destin. Au terme de cette épreuve initiatique que l'on réserve d'habitude aux garçons, elle sera prête à partir avec son clan à la recherche du caribou qui a déserté la taïga. J'ai eu la vision du caribou il y a un mois. Il m'a semblé voler à sa chasse en replongeant dans ce roman-conte, a écrit Natacha Canapé-Fontaine. Une critique de presse, ce conte est un fabuleux voyage à travers les terres et les traditions ancestrales de peuples autochtones. C'était dans la presse, comme un récit pressenti depuis la nuit des temps, comme une légende que notre époque réclame. Le chant de la terre inou porte en lui l'espoir d'une joie retrouvée. C'est signé Jean Bédard. B-E-D-A-R-D
Et puis aussi 5 jours de Douglas Kennedy. Non, ce n'est pas un polar, c'est un roman qui se situe dans le Maine de nos jours. Il est question d'un couple. On est loin du Douglas Kennedy habituel. Pas de suspense, mais une intrigue qui est essentiellement sentimentale. Au début, on s'impatiente un peu devant la banalité des personnages, nous dit-on, mais au fil du livre, on s'attache à eux. 5 jours donc de Douglas Kennedy. Alors voilà ce qui met un terme à cette nouvelle émission de Livres Découverts. Je voudrais remercier mes invités aujourd'hui, Gaston Loubier et Michel Gélina. Je voudrais remercier aussi Kamal Salifou qui était à la régie technique aujourd'hui. Merci de m'avoir si bien accompagné. Je vous rappelle que l'émission est une production de Canal M, réalisée et animée pour vous par Clotilde Say, que vous pouvez la réentendre quasiment tous les jours sur nos ondes. Alors ne vous en privez pas. Bonne semaine à vous toutes et vous tous et bonne lecture. À la semaine prochaine.